Bon, ben, on recevra pas le gars qui va être sur le poster des pompiers 2026. Je pense que c'était le mois de février, lui, son mois. Bill Noonan qui est pas là.
Oui, mais à chaque fois qu'il sort maintenant, il se fait arracher le linge sur le dos. Ah, ça. Tu comprends qu'il peut pas, il peut plus sortir autant qu'il sortait.
Exact. Et il a dit non, non, ça c'est trop pour moi. Là. Je peux pas aller à Boulevard. Ce qui fait en sorte qu'on a notre chum Alexandre Lajoie qui est avec nous autres, qui est relationniste au service incendie de la Ville de Québec. On est tout aussi content de te recevoir, cher ami. Merci d'être là, soit dit en passant.
Bon après-midi. Merci à vous de m'inviter encore une fois pour votre micro.
Une belle activité à faire avec la famille, c'est vraiment d'aller aux portes ouvertes des pompiers de la Ville de Québec. Vous faites ça pourquoi? Êtes-vous obligé de le faire? C'est tout dans vos, dans vos tâches de faire des journées portes ouvertes pour les citoyens?
C'est dans nos responsabilités, dans nos obligations de faire de l'éducation du public.
Ouais.
Maintenant, bon, mais c'est à l'organisation à déterminer de quelle manière on va le faire, de quelle manière on traduit ça. Et les portes ouvertes, bien, c'est l'une des principales. Et ça nous permet également d'ouvrir l'ensemble des 16 casernes de la Ville de Québec là, à tous les citoyens. On ouvre les portes et ils peuvent venir voir nos équipements, ils peuvent venir voir les camions, ils peuvent venir voir les pompiers en caserne, ce qui est rare le reste de l'année.
Alors, pas de réservation, t'arrive comme ça durant la journée. Là.
Ils viennent quand ils veulent, c'est de 9h à 15h ce samedi dans les 16 casernes. Donc, c'est pas une obligation, mais nous, à la Ville de Québec, c'est une priorité de le faire. L'ensemble des pompiers, là, la grande majorité des pompiers apprécient faire ce travail-là et partager leur profession aux personnes qui viennent nous rencontrer.
Ah, puis je vais te dire, juste avec les enfants, moi, c'est assez dur des fois de les faire sortir de la maison là, quand ils n'ont pas de hockey, puis quand on va pas au cinéma, puis quand on va pas au restaurant. Mais quand je leur ai dit, on s'en va voir les pompiers, là, ça a pris ni une ni deux. J'ai même pas, c'est même pas moi qui ai choisi leurs vêtements. Ils sont allés prendre leurs vêtements, ils étaient déjà prêts. Je pense qu'on est allés les 2-3 dernières années, parce que vous en faites à chaque année.
Oui, à chaque année, ça a lieu. C'est sûr que pendant la période de la COVID, là, on a arrêté quelques années, exactement. On a recommencé il y a 2 ans. Puis, tu sais, c'est le fun pour les enfants, mais c'est également le fun pour les adultes. Des camions de même, voir nos technologies, ce qu'on a comme équipement, comme outil.
Exact.
On a des casernes de spécialité.
Comment c'est fait, les casernes?
Ah, c'est spécial, c'est le fun à voir.
Avez-vous encore votre tuyau là, qui passe du deuxième étage?
On a encore quelques casernes qui l'ont. C'est sûr que dans les nouvelles casernes qui sont construites, bon, ben, ça tend à disparaître, mais on a encore quelques casernes qui l'ont. C'est encore utilisé.
Ils ne se tiennent plus en arrière du camion non plus, là, Yannick.
Mais
là,
les gars de 55 ans qui étaient pompiers, là, c'est qu'ils étaient un petit peu. Quand t'es pompier, faut que tu te gardes en forme. Des fois, quand même, t'avais un surpoids. Là. Tu pognais-tu le poteau pareil?
Il pognait tout. Oui. Ce qu'on veut, nous, quand l'alarme sonne, là, peu importe la condition physique, le poids qu'on a.
C'est être prêt.
On veut aller aider les gens.
En caserne, il faut qu'il... Ben, parce que moi, là, j'ai des images des amis qui sont à caserne à Limoilou. Puis c'est une des casernes où ça sonne le plus. Là. Ils sont toujours...
Caserne 2 sur des Capucins ou la caserne 4 sur des Pins, Peupliers. Oui,
ouais, ça bouge. Là, OK. Puis eux autres, ils dorment en semi-bunker. Fait que quand tu dors à caserne, ils dorment semi-habillés. Puis il faut qu'ils soient prêts en combien de secondes?
C'était vrai à l'époque. Mais maintenant, les normes en santé et sécurité au travail font en sorte que le bunker, l'habit de pompier intégral, il doit rester dans la caserne.
Mais ils sont comme habillés. Il n'y a pas de pyjama.
Souvent, ils vont avoir peut-être des combinaisons prêtes. C'est vraiment chaque pompier va dormir habillé comme il le veut. Mais chose certaine, c'est qu'il ne mettra pas son pyjama, qu'il faut qu'il change.
Non, c'est ça.
Il va tout faire en sorte que quand l'alarme sonne, il faut que ce soit rapide.
Écoute, t'es à demi réveillé à ce moment-là.
Ça prend combien de temps de mettre l'équipement que vous appelez le bunker?
Ben nous, dans les tests à l'école et tout ça, là, c'est 60 secondes. Hey. Même, il faut peut-être 75 secondes. Il faut qu'on ait mis l'habit et qu'on soit endossé avec l'appareil respiratoire. Ça, c'est dans les tests. Maintenant, dans les casernes, je vous dirais qu'en 20 secondes, 30 secondes, les gars, là, c'est pas long. Là, les culottes sont déjà sur les bottes. Venez nous voir en fin de semaine, on va vous le montrer. Il y en a qui vont pouvoir essayer les équipements. Mais les culottes sont déjà sur les bottes. Ils sautent les deux pieds dans les bottes. Il monte les bretelles, la salopette. Le manteau, il est accroché. Il l'enfile rapidement. Il embarque dans le camion puis ils sont partis. C'est très rapide.
C'est lourd, Yannick. Là.
Mais moi, Alexandre Lajoie...
Ça surprend. Là, avec le casque, avec tout ça, toi, faudrait que tu le laissais.
Moi, c'est pas ça qui me surprend. Ce qui me surprend, c'est quand vous vous faites réveiller, vous êtes à la caserne, vous dormez, il est 2h du matin, vous faites réveiller, puis après quelques secondes, vous êtes déjà dans le truck à partir. Moi, ça me surprend. Parce que quand je me lève le matin, tu peux pas me parler tellement longtemps que j'ai pas pris mon café. Vous autres, vous avez pas le temps de faire ça. Là.
Non, quand ça sonne, qu'on soit dans le sommeil profond, pas profond, on se réveille. C'est sûr qu'il y en a que tu le vois des fois, ça prend plus de temps à se réveiller. Et ça fait partie de la game, mais on est là pour ça. C'est la raison pour laquelle les pompiers sont toujours en caserne.
Ouais.
On sait jamais quand est-ce que les gens vont avoir besoin de nous. Alors, on se réveille, on se prépare, puis c'est pas long que dans le camion, si tu as les yeux collés, décolle-les, parce que rendu dans la maison. Au bâtiment en feu, ben, s'il y a du monde à aller sauver, il faut qu'on aille chercher.
Y a-t-il une déformation professionnelle que tu as vue auprès de tes collègues qui, à un moment donné, ils sont capables de s'endormir puis de se réveiller quand même très rapidement avec le temps?
Peut-être que certains, mais c'est plus souvent l'inverse que les gens vont développer, malheureusement. Là, ce que les études démontrent, c'est que les gens policiers, pompiers qui travaillent dans, dans l'urgence, même à l'hôpital, qui ont des corps de travail de nuit. Bon, ben avec le temps, vont développer peut-être plus des troubles du sommeil et que ça va venir impacter leur santé physique et psychologique. Donc, leur espérance de vie, tout ça. Donc, il y a des études qui démontrent tout ça. C'est la raison pour laquelle la santé et la sécurité au travail est un élément très, disons, prioritaire dans nos milieux et qu'on met l'emphase là-dessus. Il y a des études qui sont faites, on continue à développer sur comment qu'on peut essayer de limiter les répercussions finalement de ces courtes nuits-là ou de ces éveils en plein milieu de la nuit-là. Donc là, il y a des études sur les horaires de travail qui se font. Il y a des études aussi sur la sieste, est-ce qu'il y a des bonnes répercussions à ça? Un petit 15 minutes de jour, des fois, est-ce que ça peut aider à te replacer, à aller rechercher l'énergie que tu as besoin si tu ne l'as pas? Donc, il y a un paquet de choses qui se font actuellement en santé et sécurité au travail, notamment pour le sommeil, mais aussi pour d'autres choses.
Je vais te poser des questions. Pascal doit déjà être au courant de toutes ces, ces réponses-là parce que son père est pompier. Là. Mais est-ce que vous dormez dans des petites chambrettes séparées ou vous dormez toutes ensemble?
Il y a quelques années, il y a plus d'une dizaine d'années, je dirais que c'était vraiment des aires communes dans lesquelles il y avait cinq. Moi, quand je faisais mon stage en 2005-2006, ici à Québec, à la caserne 3, qui est une des plus vieilles en Amérique du Nord, là, c'était vraiment tout le monde dans la même pièce.
Hey, 4-5 tondeuses pendant que tu dors. Là.
Il y en a qui font de l'apnée du sommeil avec les machines. Des fois, ça impacte aussi. C'est la réalité. Là. C'est la réalité dans laquelle on vit.
Faut pas que ce soit chicane. Hein?
Non, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, il y a des petits cubicules dans lesquels c'est fait. Puis que s'il y a une intervention à la caserne, il y a une personne qui est en garde à toutes les nuits. Et là, va vraiment faire sonner l'alarme dans la caserne. Parce que de façon courante, là, tous les jours, quand il y a une intervention, ça sonne dans l'ensemble des casernes. Donc là, si c'était le cas la nuit, il se réveillerait à tout bout de champ. Donc, il y a une façon de faire.
Puis,
là, qui
pendant vos corps de travail où vous devez être là, puis il ne se passe à rien, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de vérification à aller faire, vous faites quoi, les pompiers?
Je dirais deux, trois choses principales. Il y a évidemment à faire de la pratique, de la formation. On en fait énormément. Les casernes de spécialité vont être encore plus sollicitées à en faire. Il y a beaucoup de prévention incendie également qui se font. Donc, pendant la période estivale, du mois de mai au mois d'octobre, les pompiers doivent faire du porte-à-porte. On cogne à près de 50 000 portes de résidence, de maison, finalement, à chaque été, donc pour aller vérifier les avertisseurs de fumée.
Ouais.
Et il y a également, parfois, il va y avoir de l'entraînement qui va se faire. On le sait que les pompiers doivent être en bonne condition physique. Là, on parlait du poids de l'habit tantôt, là, avec l'appareil respiratoire et juste l'habit de pompier, le bunker, c'est autour de 80 livres. Ajouté à ça, quand on monte les escaliers des bâtiments de grande hauteur, ça peut monter jusqu'à 130 livres.
Plus le boyau, plus du sang, quelqu'un.
Mais vous pouvez vous entraîner. Pendant vos heures de travail, vous pouvez vous entraîner. Fait partie du travail.
Il y a des tâches, par exemple, les inspections des véhicules qui sont faites à chaque début de corps, les équipements et tout ça qui sont à prioriser.
Vous pourriez vous partir une entreprise de nettoyage à domicile tellement vous faites du ménage.
Aussi, il y a le ménage à faire de la caserne, l'entretien de la caserne.
Quand tu arrives chez vous, laver ton char, ça doit être plate.
Faut le faire. Faut dire que les horaires, des fois, ils permettent d'avoir peut-être plus de temps pendant que les enfants sont à l'école pour le faire à l'occasion.
Mais vous entraînez quand même pas mal. Il y en a qui ont leur... tu sais, selon les équipes, là, moi, ce que Nelson Karim m'expliquait des amis en incendie, dans leur journée... qui n'ont rien à faire à la caserne, entre parenthèses, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire.
Ils font leur horaire par équipe.
Ils s'entraînent en équipe.
Oui, il y en a beaucoup. Chaque équipe va le faire de manière différente, mais il y a beaucoup d'équipes qui vont s'entraîner ensemble. Sauf que l'entraînement de groupe, l'esprit de groupe est important parmi les pompiers. Donc, l'entraînement en équipe va aider à ça. Puis, ça va stimuler des gens que des fois, ça ne te tente pas. Les trois autres s'entraînent et on va le faire nous autres aussi. Puis, à Québec, là, je vous dirais, tu sais, pour connaître maintenant, avoir fait la tournée de l'ensemble des casernes, on a des pompiers, ça accroche et en forme. Là. 95% des pompiers et plus. Là,
est-ce qu'on nomme ceux qui ne le sont pas?
Non, mais c'est sûr qu'il y en a des fois, ils reviennent d'une blessure, la condition ne sera pas la même. T'sais, dans une carrière de 25-30 ans, c'est pas vrai qu'on va tout le temps être à notre top niveau, disons-le de même. Là.
Ouais.
Sauf qu'il faut quand même maintenir une bonne condition pour mettre l'équipement. Puis, on le sait, on est à risque également, les pompiers. La principale cause de décès chez les pompiers, c'est les accidents cardiovasculaires. Donc, la condition physique est extrêmement importante. Donc, c'est une des raisons pour laquelle les pompiers s'entraînent sur leur corps de travail.
Alexandre Lajoie, j'ai des questions à te poser. Supposons que vous passez dans mon quartier, le pompier il est là, puis là, il cogne à ma porte, puis il me dit « Bonjour, M. Marceau, je veux voir si votre avertisseur de fumée fonctionne. » Je suis obligé de vous laisser rentrer?
C'est pas une obligation, mais tu sais, si on y va et il fonctionne pas, rendu là, nous, on n'avait pas de constat d'infraction, il n'y a pas de tickets qui sont donnés. On va vous demander de le réparer. Il y a peut-être probablement un suivi, un inspecteur en prévention incendie qui va venir reconstater que ça a été corrigé par la suite.
Ouais.
Il y a même des fois, les pompiers, on peut remettre également des avertisseurs de fumée aux personnes qui n'en ont pas,
ah oui.
Si ça fonctionne pas, qui ont plus de 10 ans. Donc oui, on a ce programme-là à la Ville de Québec. Même chose pour le monoxyde de carbone. T'sais, on en a une quantité limitée par année, il faut dire. Là. Mais c'est un beau programme. L'avertisseur de fumée, là, c'est ce qu'on vérifie. T'sais, ouvrez la porte aux pompiers. On n'est pas là pour venir écornifler chez vous.
Pas ah, des fois, c'est parce que le ménage n'est pas
fait. Ouais, c'est pas grave, ça. T'sais, nous, on regarde pas ça. Tout ce qu'on regarde, c'est vraiment l'avertisseur de fumée.
Ouais.
Puis on va se contenter de se poser aux questions.
Le truc qu'on nous avait donné, je pense que c'est dans le temps, c'était la ville de Beauport. Il y avait leur propre service de police. Là, puis ils venaient dans les écoles. Puis ils nous avaient dit, puis ça m'intéressait dans la tête parce que je le fais encore plus vieux, quelques décennies plus tard, chaque changement d'heure, on vérifiait puis on changeait la batterie.
Ça se fait encore. Nous, ce qu'on va adopter maintenant comme message, c'est plus à chaque changement d'heure, vérifie ton avertisseur de fumée.
OK.
Aujourd'hui, dans les maisons, ils sont tous électriques, même qu'il y a des avertisseurs de fumée dans chacune des chambres là, lors des constructions maintenant. Et quand on a des avertisseurs de fumée à pile, donc c'est des bâtiments qui vont être construits, disons, avant les années 2000, là, tout dépendamment des.
Parce que moi, j'ai les deux, là. J'ai électrique, puis je peux mettre une batterie.
Pile. Bon, ben là, la petite pile, si elle est faible, c'est sûr qu'il va falloir la changer à un moment donné. On peut la changer à ce moment-là, c'est bon. Nous, on dit testez-la, puis ceux qui ont vraiment juste à pile uniquement, là. C'est d'acheter un avertisseur de fumée, c'est ce qu'on recommande fortement, la pile au lithium. L'avertisseur de fumée est bon pour. La pile va être bonne pour 10 ans de temps, jamais besoin de la changer. Et au 10 ans, il faut changer l'avertisseur de fumée. Donc, la pile est bonne pour 10 ans. Quand elle est plus bonne, elle va faire un petit bip. Là, comme ta pile dans ton avertisseur de fumée électrique qui t'indique que c'est le temps de la changer, il va faire un petit bip. Alors là,
agressant que tu ne manqueras jamais.
Ouais, exactement. Blonde... Mais il faut la changer, faut le garder. Il vaut mieux l'enlever. Faut pas enlever l'avertisseur de fumée, jamais. Ça.
Là, ma blonde dit j'aimerais que les pompiers viennent vérifier à la maison le détecteur s'il est correct. Ce serait beaucoup plus sécuritaire pour moi aujourd'hui.
On peut arranger ça, là. On peut vous en envoyer une équipe.
Mais Yann, je pense que...
T'es en train de me niaiser.
Oh non, mais je pense que toi, tu peux pas le vérifier. Elle a raison.
C'est ça.
Il faut, des qualificatifs plus intéressants que ça.
Ça prend absolument des
pompiers. Je suis d'accord avec elle.
Tu as parlé de détecteurs de monoxyde. Est-ce que toutes les maisons, toutes les résidences doivent être munies de détecteurs de monoxyde? Puis à quoi ça sert?
Dans le fond, le monoxyde de carbone est un gaz qui va se dégager dans l'air avec tout appareil de combustion, une voiture, un poêle à bois, un poêle au granule, une cuisinière au gaz qui aurait une mauvaise combustion. Le monoxyde de carbone se dégage dans l'air. Lui, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur, et comment dire, on ne peut pas vraiment le détecter. Alors, il va être dans l'air, il va affecter la santé des personnes, il va nous étourdir, il va nous faire vomir, et si l'on dort, peut-être qu'on s'en réveillera jamais, il peut causer même la mort. Alors, le détecteur, lui, va te permettre, va sonner, il va avertir les gens lorsqu'il y a du monoxyde de carbone dans l'air. Nous, vous appelez les pompiers, on va se déplacer, on a des détecteurs pour ça, et on va pouvoir identifier c'est quoi la source. Maintenant, l'obligation de ça... Bien, je l'ai dit, c'est les appareils de combustion qui dégagent ça. Bon, bien, dès qu'on a un appareil à combustion ou un garage annexé à la maison, c'est obligatoire d'en avoir un. Mais une résidence qui fonctionne avec des plaintes électriques, une cuisinière électrique, que tout est électrique, il n'y a aucun gaz, aucun granule, aucun bois, aucune voiture ou garage vraiment attaché au bâtiment, c'est pas obligatoire à ce moment-là.
Il y a des gens qui nous écrivent par rapport au détecteur, c'est sur chaque étage encore et tout ça. T'sais, moi, je veux dire, je suis biaisé là-dedans, là, même le détecteur de monoxyde de carbone. Quand j'avais emménagé avec mon ex à la maison, la première chose que mon père a apporté, c'est ça. T'sais. Fait que j'en ai. C'est biaisé parce que j'ai entendu toute ma vie qu'une des principales causes, que ce soit par toi, Alexandre, que ce soit par les pompiers ou la prévention incendie, c'est encore quelque chose qui va blesser le plus des gens, qui n'ait pas eu l'alarme pour les réveiller pendant l'incendie. T'sais.
90% des incendies où il y a des mortels, où il y a des décès là, dans les bâtiments résidentiels, ne comportent pas d'avertisseur de fumée fonctionnel.
C'est 10$, c'est 30$.
C'est énorme triste, comme statistique. Là. Donc, c'est obligatoire d'en avoir un à tous les étages d'une résidence, dans les aires communes. Dans les nouveaux bâtiments, bon, bien, c'est dans chaque chambre même. C'est à tous les étages dans les aires communes et également dans chaque pièce où l'on dort. Donc,
ça peut être agressant si ta tosse sonne, là. Puis là, tu prends le linge à vaisselle, c'est la technique de tout le monde. Là, t'en vas le swinguer en haut de ton détecteur. Mais...
Quand ça fait ça, là, appelez votre service incendie. Nous, on connaît ça. Il y a différentes fonctionnalités dans les avertisseurs de fumée ou différentes façons de fonctionner. Il y a deux modèles et souvent, c'est parce que le modèle que vous avez est trop sensible à la fumée de cuisson. Alors, on va tout simplement vous recommander d'acheter l'autre modèle que les gens connaissent pas, là, c'est photoélectrique, qui est moins sensible aux fumées de cuisson dans les petits logements ou quand il est près de la cuisine.
Ouais.
Donc, acheter un modèle photoélectrique. puis il ne causera plus de fausses alarmes.
Mais... Ah, c'est intéressant ça.
Oui, c'est souvent ce qu'il produit.
Oui, mais en même temps, puis il y a aussi le fait où, tu sais, des fois, on ne connaît pas ça, nous autres, puis on est dans nos logements ou dans nos maisons, puis là, on arrive, puis là, on trouve qu'il en manque un, on le met au-dessus de la cuisinière.
Parce que tu dis, s'il y a un feu, ça va être à côté, ça va pas. T'sais...
Sauf que, tu sais, si t'as un enfant qui décide de faire sa propre bouffe, puis qui ne part pas le fan, ben c'est
ça. C'est pas un mauvais réflexe, mais c'est pas la bonne place.
Non, c'est ça. Mais dans une cuisine, tu le mets où? Tu le mets dans le milieu de la cuisine?
Souvent, on va le mettre vraiment plus proche des chambres à coucher. Sur l'étage où il y a la cuisine, on va le mettre dans le salon ou loin, mais plus proche, dans le corridor où il y a les chambres à coucher. Encore là, il y a la salle de bain, la vapeur d'eau peut le déclencher lui aussi. Il est possible de le mettre là, parfois même sur les murs jusqu'à 30 cm, disons un pied maximum du plafond. Parce que la fumée, elle, c'est connu, là, quand il y a un incendie, elle monte. Fait qu'on veut quand même qu'il soit en hauteur, sinon on ne se réveillera jamais.
À Québec, c'est quoi les principales causes d'incendie?
Les causes d'incendie, je dirais, c'est souvent les mêmes qui reviennent, l'erreur de cuisson. L'erreur de cuisson va être très fréquente.
Et les bonnes frites à l'huile, là.
Les frites à l'huile, tu sais, on oublie, on a tendance, on a des distractions quand on fait à manger, on sort notre cellulaire, on s'endort.
4 heures du matin, je suis sûr, je vais me faire des bonnes frites à l'huile.
Ben, je dirais pas c'est ce qui s'est produit, mais en fin de semaine dernière, on a eu un incendie où il y a eu 4 personnes qui ont été amenées à l'hôpital parce qu'ils ont respiré de la fumée. Un qu'on craignait pour sa vie. Et il n'y avait pas d'avertisseur de fumée fonctionnel, il y en avait, mais pas de batterie. Puis c'est une erreur de cuisson, c'est justement une personne qui s'est sans doute. Parti un chaudron d'huile en fin de soirée, s'est endormi et quelqu'un s'est réveillé avec de la fumée éventuellement, mais il y a 4 personnes qui ont été incommodées par ça. Donc ça, c'est l'erreur de cuisson. Aujourd'hui, pour tout ce qui est friture, là, premièrement, manger santé. Manger santé, c'est l'idéal. Mais sinon, il y a les, t'sais, c'est une friteuse thermostatique qui contrôle la température. Il y a les air fryers.
As-tu des problèmes avec ça? C'est tellement populaire. On entend aux États-Unis, des fois, il y en a un qui saute, des affaires comme ça. Y en a-tu des problèmes ici à Québec?
Il peut, tu sais, tout appareil électronique éventuellement peut causer un incendie, mais pas de façon marquée. Donc non, on constate pas de problème particulier avec ça. C'est pas mal moins pire que les chaudrons d'huile. Je vous dirais que les articles de fumeurs, on y pense pas, là, mais les articles de fumeurs sont encore une des principales causes d'incendie.
Il y a quelqu'un dans les 3 dernières années autour de moi que sa maison a passé au feu complètement parce qu'il logeait un de ses amis qui se séparait, puis il fumait. Lui, une petite tape une fois de temps en temps, là, l'expression, là, il faisait, il a jeté le mégot dans le buisson chez son ami qui l'accueillait parce qu'il était en séparation et ça a monté, ça a brûlé, la maison a complètement passé au feu.
Oui.
Mais les assurances après, là, c'est parce que c'est comme si c'était t'es la cause par le fumeur qui était chez toi. Ça a été épouvantable.
Ouais. Je dis, les fumeurs t'sais, sont un peu plus consciencieux que les fumeurs qu'on a connus des années 60, 70, 80, mais ça arrive beaucoup des fois en Beauce, là, des feux de bord de chemin ou des feux de champ. Parce que le fumeur, lui, il est en char, il est dans sa décapotable, sa Mazda,
ouais,
il
décide c'est
qu'il pitche sa cigarette.
Par la
puis,
fenêtre.
Regarde, ça fait quoi, 3 jours qu'il n'y a pas plu, c'est sec à côté, ben, c'est la récolte
ça,
du
ça arrive encore.
Ça arrive encore.
Oui, les articles de fumeur, c'est une des principales causes. C'est souvent au début de l'été, là c'est pas si pire parce que la verdure est prise, mais généralement, là, t'as une période là, qu'on vient de terminer, disons, là, où c'est plus sec. Quand il mouille pas, tout prend plus facilement. Fait que, tu sais, c'est à éviter de mettre ça dans les terreaux, les
plates-bandes.
Les plates-bandes, tout ça, là, évidemment, c'est on met ça dans un cendrier prévu à cet effet-là. Puis avant de jeter les cendres, ben, mouillez-les pour être sûr que tout est correct.
On a eu un débat avec Audrey Pinchot, notre collègue, puis on trouvait ça bien drôle qu'elle s'inquiète des feux de laveuse. Là, on s'est mis à checker ça.
Les feux de sécheuse ou les feux de laveuse?
De laveuse.
De laveuse.
Parce que des feux de laveuse, ça existe, mais c'est vraiment minime.
C'était une affaire de ça sauter avec des produits chimiques sur des vêtements.
Oui.
Puis on trouvait ça vraiment cute, puis elle avait quand même raison. Il y a eu des articles là-dessus. Dans les causes inusitées dans lesquelles on peut avoir une discussion, t'as quoi en tête qui t'a marqué, toi?
Hey, c'est une bonne question. T'aurais pu me le dire, je me serais mieux préparé que ça.
Je m'excuse, c'est spontané.
Mais ça en est.
T'es même pas préparé de mon
avec Christian Page, dans Le Monde, il y a eu quelques épisodes de combustion spontanée qui ont été inexpliqués par les enquêtes, les enquêtes de pompiers. Fait que c'est des gens qui ont été retrouvés morts dans leur lit, brûlés, mais ils sont pas capables de savoir c'est quoi la cause d'incendie.
C'est une pile de lithium de cellulaire ou tu sais même ça a pas été.
Ouais, je te dirais que c'est plus des années 60-70.
Il y avait un petit peu moins de cellulaire, oui. C'est encore celui qui tourne.
Mais oui, là, tu sais, dans les gens fumaient pour s'endormir, tu sais, ils s'endormaient avec leurs cigarettes.
Ça c'est le plus triste.
Ça arrive encore. Je dirais pas inusité, mais c'est sûr qu'il y a des événements qui sont plus marquants. Là, les gens qui fument, j'ai déjà par expérience, j'ai un passé, disons, d'inspecteur en prévention incendie, où j'en ai fait à Montréal, à Québec, à plusieurs endroits. Et sans citer l'endroit, j'ai visité à un moment donné un logement d'une madame que tu voyais malheureusement qu'elle avait été défiguré par, par un incendie, probablement. Et moi, j'allais vérifier l'avertisseur de fumée. Alors, je demande à la personne, bon, bien, je suis ici pour vérifier l'avertisseur de fumée. Est-ce que ça vous dérange si je viens? Non, 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 viens, il n'y a pas de problème. Et là, je vois que les murs là, de sont l'endroit sont jaunis par les articles de fumeurs. Tu sais, il y a des fumeurs que c'est assez marqué. Alors, je vérifie l'avertisseur de fumée. Et... T'sais, je vois qu'il ne fonctionne pas, alors je lui dis que c'est important d'avoir un avertisseur de feu fonctionnel. Si jamais il y a un incendie, ben c'est lui qui va vous réveiller. Puis elle dit « Ah, je sais, regardez, je suis brûlé. » Fait que là, je lui ai demandé qu'est-ce qui est arrivé? Ça vous dérange-tu de me le dire, de me partager votre histoire? Elle l'a fait. Et elle m'a dit « Bon, bien, je me suis endormi avec une cigarette. » Alors moi, de dire « Bon, bien, j'espère que, t'sais, au moins vous ne devez plus le faire. » Et elle, de me répondre « Non, regarde le divan, regarde mon lit. » Il y avait encore des dizaines de trous à chacun des endroits. Là. Alors là, c'est sûr que tu restes professionnel. Tu dis « Ben, je vais quand même demander de changer, de faire fonctionner l'avertisseur de fumée pour les voisins. » Mais tu sais, il y a des gens, tu sais, j'ai essayé de la sensibiliser, mais rendu là, des fois,
ça
malheureusement, il
n'y a pas grand-chose à faire.
Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des situations, des fois, où c'est vraiment... le film qui vient de sortir là, avec les décès, là, comment on appelle ça déjà?
Face à la mort,
Destination.
Destination ultime.
Oui, ben, des fois, c'est un petit peu ça l'incendie. Tu vas répéter une action 20, 40, 100 fois, il n'y aura pas d'incident, le feu ne prendra pas, mais la 173e fois,
ça va fonctionner.
Celle-là, l'incendie va se déclencher. Tu vas mettre les poseurs de Jeep, ils vont mettre des milliers de vis dans le mur, puis il y en a une que. 15 ans plus tard, l'incendie va prendre. Il y a des situations où vraiment l'être humain n'a pas le contrôle là-dessus. Oui, la majorité des incendies, c'est suite à une erreur humaine, c'est des accidents et tout ça, mais il y a quand même des situations où on n'a pas le contrôle. Mmh. Fait que c'est la raison pour laquelle d'avoir un avertisseur de fumée.
Exact.
C'est vraiment ça qui sauve des vies. Quand on dort, c'est ce qui va vous réveiller puis vous permettre de sortir à temps.
Alexandre Lajoie, on rappelle, le service d'incendie de la Ville de Québec fait une journée porte ouverte pour ce qui est des casernes. Ça va être samedi 31 mai. C'est de quelle heure à quelle heure?
C'est de 9h à 15h et on en profite. C'est le lancement de notre nouvelle mascotte qui va être inaugurée, disons, à la caserne 9 de Sainte-Foy. Elle va être présente pour une bonne partie de la journée de 9h30 à 14h. Alors, venez la rencontrer. Ça va nous faire plaisir d'être là avec vous et de vous rencontrer à l'ensemble de nos 16 casernes.
En personne.
Ouais, et j'ai une auditrice de l'ancienne Lorette qui nous écrit, qui dit « Bonjour Alexandre, est-ce que quelqu'un peut me prêter ses enfants pour aller voir les pompiers? J'ai 51 ans, je suis toute seule. »
On n'a pas besoin
d'enfants. Êtes-vous tanné d'être objectivé, Alexandre?
Non, mais il y a tout le temps des gens qui viennent nous rencontrer, peu importe l'âge, seul ou pas seul. Elle peut venir seule, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir de faire le tour avec elle.
Oui.
Merci à tout le monde qui nous aide lors de cette journée-là. Il faut dire que tous les pompiers qui sont là demeurent en service s'il y a des interventions pour continuer de protéger les citoyens de la Ville de Québec. Alors, on a beaucoup d'étudiants, de partenaires qui viennent nous donner un coup de main pour rendre cette journée-là possible. Je pense aux étudiants du CFP Neuchâtel, du CNDF et également du Cégep Garneau en prévention incendie. Merci à toutes ces personnes-là qui viennent avec nous cette journée-là.
Alexandre Lajoie, un gros merci d'être passé.
Ça fait plaisir. Merci. Merci à vous pour l'invitation.
Nous autres, on est toujours là pour vous autres. Puis vous êtes toujours là pour nous autres.
Ça fait plaisir.
On s'entraide. Le clan de la savate, l'armée des voyous sur Boulevard. On vient.